Vous êtes venus en nombre, chers frères prêtres, diacres et séminaristes, chers frères et sœurs consacrés et fidèles du Christ laïque, pour rendre grâce cet après-midi à l'occasion du 10e anniversaire de mon ordination épiscopale. C'était le 30 novembre 2008. Et vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là comme moi, le temps désastreux qu'il y avait ce jour-là. Les pluies diluviennes et les bourrasques de vent glacial qui s'étaient abattus sur Bayonne. Comment faut-il interpréter d'ailleurs ? Était-ce l'annonce d'une pluie de grâce ou un avis de tempête sur notre diocèse ? Les deux, mon général, sans doute. Mais nous sommes là pour rendre grâce. Et j'ai conscience qu'il ne s'agit pas seulement de mon action de grâce, même si j'ai été mis à l'honneur ce jour-là, et je le suis toujours étant à la tête de cette église particulière de Bayonne, Lescar et Leron. Mais ce n'est pas le fruit d'une volonté humaine, ni de moi-même, ni de vous d'ailleurs, mais un choix de Dieu. Et j'aime redire ces paroles de l'apôtre Paul en commençant son épître aux Romains, comme en des termes semblables au début de toutes ses épîtres, Paul, serviteur de Jésus-Christ, apôtre par vocation, mis à part, et non pas séparé, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ce n'est pas seulement mon action de grâce, mais c'est aussi votre action de grâce. C'est l'action de grâce de tous les membres de cette église de Bayonne, Lescar et Oloron. Car précisément, comme dit saint Paul, un membre souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les membres se réjouissent avec lui, car vous êtes le corps du Christ et vous êtes membres les uns des autres. Le Seigneur a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, puis les docteurs. Il y a encore le don des miracles, le don de prophétie, le don des langues. L'Église est ornée d'une multiplicité de dons hiérarchiques et charismatiques qui forment le corps du Christ. Et l'Eucharistie que nous célébrons, l'Eucharistie qui est célébrée autour de l'évêque, est toujours comme l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de l'Église, corps du Christ, envoyé dans le monde pour annoncer par vocation l'Évangile de Dieu. Chers frères et sœurs, ensemble, quelle que soit notre fonction et nos charismes, l'évêque, les prêtres, les diacres, les séminaristes, les consacrés, les fidèles laïcs, avec tous les dons qui nous ont été impartis par l'Esprit-Saint, tous les ministères, tous les charismes, avec aussi toutes nos pesanteurs, nos limites, nos péchés, et je demande pardon moi aussi pour mes péchés durant ces 10 années de gouvernement de ce diocèse. Nous avons écrit ensemble une page de l'histoire d'amour de Dieu avec l'humanité engagée que nous sommes dans la communion. J'ai conscience qu'il y a 10 ans, lors de mon ordination épiscopale dans cette cathédrale, et je l'avais déjà dit d'ailleurs ce jour-là, à la fin de la célébration, qu'un lien de type nuptial a été établi entre moi et l'Église qui m'a été confiée. De même que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas ? Qu'il n'est pas une entreprise clé en main, mais qu'il se construit pas à pas, avec des chutes sans doute, mais est engagé sur un processus de croissance. De même, cette relation de type nuptial entre l'évêque et son peuple est appelée à grandir sans cesse, à surmonter toutes les difficultés, toutes les divergences, toutes les dissensions, toutes les causes de conflits ou de divisions, pour entrer dans cet amour mutuel qui doit présider à la vie de l'Église, qui est le corps du Christ, le peuple de Dieu, le temple de l'Esprit-Saint, la demeure de Dieu au milieu des hommes. C'était le 30 novembre, sans doute il y a 10 ans, où l'on fait mémoire de l'apôtre saint André, mais c'était le premier dimanche de l'Avent, et c'est pourquoi j'ai voulu que ce 10e anniversaire ait lieu le premier dimanche de l'Avent. C'est tout un programme. Le premier dimanche de l'Avent, qui est le premier dimanche de l'année liturgique, qui nous fait entrer dans les grâces du commencement et du recommencement. Il y a beaucoup de portes d'entrée dans l'année des hommes. Il y a le début de l'année scolaire, en septembre, qui rythme la vie des familles et qui rythme aussi notre année pastorale. Il y a le premier jour de l'année civile, le 1er janvier, qui conditionne la vie des institutions, la vie sociale et politique. Mais pour nous, chrétiens, ce n'est pas la rentrée scolaire, ni les vœux du président de la République, tant s'en faut, la veille du 1er janvier, qui donnent un sens ultime à notre vie et à notre histoire. Mais c'est l'avènement du Christ, l'irruption de Dieu dans l'histoire des hommes, et le Verbe s'est fait chair dans le sein virginal de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit-Saint. Et ce fut la seule véritable révolution de toute l'histoire de l'humanité qui donnait enfin un sens, c'est-à-dire une signification plénière, une orientation décisive à l'histoire de l'humanité, à notre histoire, à mon histoire, à ton histoire. Jésus, à la plénitude des temps qui est venu dans le monde. Et nous sommes tendus vers son dernier avènement dans la gloire, lorsqu'il viendra mettre un terme à l'histoire des hommes et remettre son royaume entre les mains de son Père pour nous faire entrer de manière définitive dans l'éternité de Dieu. Entre son premier avènement que nous commémorons à Noël, à la fin de ce temps de l'Avent, Adventus, qui veut dire précisément avènement, et le dernier dans la gloire, il y a le temps de l'Église que nous sommes. Et j'ai conscience que par vocation m'a été confiée la mission de pasteur avec mes frères prêtres, configurés comme moi au Christ, tête et pasteur de l'Église, pour conduire ce peuple vers le royaume et lui permettre d'entrer lui aussi définitivement dans le royaume des cieux. Mais je ne veux pas manquer de faire mémoire quand même de saint André, belle figure d'apôtre, n'est-ce pas ? Celui que les orientaux appellent le protoclet, c'est-à-dire le premier appelé. N'est-il pas avec saint Jean l'Évangéliste, comme saint Jean l'Évangéliste le raconte lui-même, disciple de saint Jean-Baptiste, qui fut le premier bénéficiaire de cette rencontre privilégiée avec Jésus, de cette intimité avec lui qui dura pas moins de 2 heures d'après l'Évangile. Et que fit ce premier appelé ? Il se précipita vers son frère, Simon, à qui il se contenta de dire « Nous avons trouvé le Messie !» Et loin de vouloir l'instruire lui-même, il voulut que ce soit Jésus lui-même qui l'instruise, et il n'eut de cesse de le mener à Jésus. C'est tellement beau ça, c'est la mission des apôtres, c'est la mission de tous les disciples missionnaires que nous sommes appelés à être, serviteurs inutiles, instruments débiles, appelés à mener les hommes à Jésus, pour que lui-même les instruise. André qui s'efface devant le Christ, et qui s'efface devant son frère Simon, qui n'a pourtant pas été le premier appelé, car c'est Simon que Jésus appellera Pierre, et sur qui il bâtira son Église, de telle sorte que les forces de la mort ne prévaudront jamais contre elle. Je suis le premier appelé parmi vous, comme un apôtre que Jésus a institué pour être avec lui de manière privilégiée et l'envoyer prêcher l'évangile avec le pouvoir d'expulser les démons. Mais je dois m'effacer devant le Christ, vouloir amener les hommes à Jésus pour que Jésus, lui seul, nous instruise et instruise les hommes. M'effacer devant Pierre, qui perdure à travers l'évêque de Rome, le successeur de Pierre, à qui je veux redire aujourd'hui ma communion effective et affective. Et quelle est cette parole qui nous instruit? Voyez le sens de cette devise épiscopale que le Seigneur m'a donnée dans la prière et qui doit guider tout mon ministère. Audi Israël. Vous y reconnaissez la profession de foi du peuple de la première alliance. Shema Israël, écoute Israël, que Jésus a assumé lui-même pour le peuple de la nouvelle alliance que nous sommes. Lorsqu'au scribe qui voulait le mettre à l'épreuve lui posa cette question, quel est le premier commandement? Et Jésus répondit, le premier commandement, le voici. Écoute Israël. Le premier commandement, c'est d'écouter. La première chose que nous avons à faire ensemble pour faire grandir l'Église et la rendre toujours plus apte à la mission d'annoncer l'Évangile à toute la création, c'est d'écouter la parole de Dieu, l'écouter dans l'intimité du cœur, l'écouter ensemble pour faire grandir la communauté, pour faire grandir la communion. Et que cette communion devienne missionnaire. Et qu'est-ce qu'il faut écouter premièrement, chers frères et sœurs? Quelle est la première chose que Jésus veut que nous écoutions? Écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus se permet d'ajouter. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà toute la loi. Et tous les prophètes, il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Comme je voudrais vous dire aujourd'hui encore, 10 ans après mon ordination épiscopale, écoutez cette première chose, chers frères et sœurs, en ce début d'année liturgique, en ce début du temps de l'Avent, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il doit avoir en tout la première place dans notre vie. Il doit détrôner toutes les idoles de notre existence, nous qui risquons sans cesse de nous appesantir dans l'ivresse, dans la débauche, dans les soucis de la vie peut-être plus encore, qui peuvent prendre la place de Dieu. Vous vous souvenez de cette question fondamentale de ce jeune homme riche qui résonne sans doute encore plus dans le cœur des jeunes qui sont ici, qui posait à Jésus, « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Et quelle est la réponse de Jésus? La première réponse que je veux donner aux jeunes, aucune autre, le reste n'est que de la démagogie. « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Dieu seul est bon. Dieu seul mérite d'être aimé de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Parce que le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Si tu ne mets pas Dieu à la première place dans ta vie, s'il n'est pas le premier servi dans ton existence quotidienne, alors cette parole de bonheur dont Jérémie nous disait que Dieu l'a adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda ne s'accomplira pas dans ta vie, et tu ne trouveras pas le sens plaigné de ton existence. Et tu ne trouveras pas la voie du bonheur. Mais il faut aussi aimer son prochain comme soi-même. Et j'entends encore cette supplication de saint Paul que nous avons entendue dans la deuxième lecture, qui nous dit, je vous en supplie, je vous en prie, aimez-vous les uns les autres. Demandez au Seigneur de faire grandir l'amour entre vous et envers tous les hommes. Cette charité fraternelle entre nous, chers frères et sœurs, au-delà de toutes les dissensions, de tous les préjugés, qui est le grand défi de l'Église, corps du Christ. Car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Il en va de la crédibilité de l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Nous nous étonnons que tant d'âmes se détournent de l'Église. Nous nous étonnons de ne pas voir nos églises remplies de fidèles. Quel témoignage donnons-nous d'amour mutuel? Qu'est-ce que nous faisons passer en premier? Nos idées, nos opinions, nos sensibilités, nos intrigues, nos dissensions. Aimez-vous les uns les autres. Soyez capables de me reconnaître dans vos frères, surtout s'ils ne vous ressemblent pas. À commencer par les plus petits, les plus vulnérables, et j'aime dire encore aujourd'hui combien nous devons être attentifs aux plus petits d'entre les petits. Ceux qui ne sont pas nés, ceux qui sont privés du droit de naître, en les recommandant au Seigneur aujourd'hui, ces centaines de milliers d'enfants qui sont réduits sans sépulture à errer dans les déchets hospitaliers et dans les égouts, mais auxquels le Christ s'est identifié et qui, je veux le croire, sont avec Jésus aujourd'hui comme témoins de la miséricorde, en particulier envers ceux qui les ont empêchés de naître. Car comme dit saint Paul, Dieu a choisi ce qui n'est rien, ce qui est sans naissance, pour confondre ceux qui se croient quelque chose et qui prétendent mener le monde. Chers frères et sœurs, je veux conclure maintenant par une intention de prière qu'une fois encore, je veux vous confier avec supplication et même dans les larmes, comme Jésus qui était saisi de compassion devant les foules de son temps, comme des foules d'aujourd'hui, car elles étaient lasses et prostrées comme des brebis sans berger. Alors il se tourna vers ses disciples et il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Voulez-vous qu'en ce 10e anniversaire de mon ordination épiscopale, nous prenions l'engagement de prier quotidiennement, en famille, à la fin de chaque assemblée eucharistique paroissiale, en communauté religieuse, pour les vocations sacerdotales et les vocations à la vie consacrée, dont l'Église, pour un nouvel élan missionnaire, ne saurait se dispenser, en particulier aujourd'hui. Je veux confier cette grande cause à votre prière. Je veux confier cette nouvelle page qui s'ouvre de mon ministère épiscopal dans ce beau diocèse pour lequel je rends grâce au cours de cette messe à la Vierge Marie, celle à laquelle j'ai voulu consacrer mon ministère épiscopal et que je veux reconsacrer aujourd'hui. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma reine, mère et ma reine, je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions présentes, passées et futures, et tout ce qui m'appartient, selon ton bon plaisir, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.